Notre santé dépend largement de notre environnement. 70% des maladies non transmissibles sont d'origine environnementale.
Ça concerne les maladies cardiovasculaires ou métaboliques, les cancers ou encore les problèmes respiratoires chroniques et aussi la santé mentale.
Mais sommes-nous tous égaux face au changement climatique ?
Je suis Emma de Radio Phoenix à Caen.
Je suis Anaëlle de Radio Phoenix et vous écoutez Génération plus 3 degrés, une série co-réalisée par Radio Campus Angers, Radio Phoenix et Radio Campus Orléans.
Dans cette deuxième trilogie, nous nous intéressons à l'impact du changement climatique sur la santé des femmes.
Qu'est-ce que le changement climatique fait au corps des femmes ? C'est la question que nous nous posons dans ce premier épisode.
Tout le monde n'a pas la même responsabilité dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a un système qu'on appelle le système patriarcal, il y a un système qu'on appelle le système colonial, qui fait que ce sont majoritairement des hommes blancs et dominants, souvent économiquement aussi, qui sont particulièrement responsables de la crise écologique aujourd'hui. Et à l'inverse, on va voir que ce sont particulièrement des personnes minorisées, des personnes racisées, des femmes, des enfants, qui sont les victimes et qui sont aux premières lignes des conséquences de ces désastres écologiques, de ces dangers qui sont de plus en plus nombreux.
Noémie Moutel est docteure en humanité écologique, agrégée de civilisation des mondes anglophones. Elle travaille depuis une dizaine d'années sur les mobilisations écoféministes des années 80 à aujourd'hui. Si, comme elle le dit, tout le monde n'a pas la même responsabilité dans la crise écologique en cours, tout le monde n'est pas non plus touché de la même manière par le changement climatique. Les populations précaires le sont davantage. Selon la Fondation pour la Recherche Médicale, les femmes représentent 70% des travailleuses pauvres, occupent 82% des emplois à temps partiel et constituent 85% des familles monoparentales, dont une sur trois vit sous le seuil de pauvreté. On écoute Joséphine Brière, maître de conférence à l'Université de Caen et chercheuse au sein de l'unité Anticipe, unité de recherche interdisciplinaire pour la prévention et le traitement des cancers.
L'endroit où l'on vit, en fait, est en lui-même pourvoyeur d'inégalités que chacun et chacune sur le territoire. On ne va pas avoir les mêmes expositions, on ne va pas avoir les mêmes protections, on ne va pas avoir les mêmes accès. Et tout ça fait que, évidemment, ça provoque l'indignation de constater que effectivement, nous ne sommes pas tous égaux au vu de notre environnement. Ça dépend de notre lieu de vie et ça va impacter énormément de facteurs, donc des facteurs de santé, mais aussi des facteurs sociaux et encore beaucoup de facteurs qu'il est aussi essentiel à intégrer dans la dimension complète de l'individu et de sa qualité de vie aussi.
Mais alors, de quelles expositions parle-t-on exactement ?
Au niveau des expositions purement environnementales, on va bien sûr avoir la pollution atmosphérique, qui est un facteur environnemental assez connu, assez établi et très surveillé. Il va y avoir aussi des facteurs très environnementaux, type qualité de l'eau à laquelle on a accès. Là aussi, la pollution des sols, c'est aussi quelque chose à laquelle on s'intéresse, d'avoir pareil des informations assez précises sur la pollution du sol qui peut être causée par des anciennes usines, des pollutions vraiment diverses. Donc ça, ce sont les aspects très, très environnementaux au sens vraiment pollution. Et puis, il va aussi y avoir des facteurs qu'on appelle aussi environnementaux, mais qui sont moins liés à des pollutions. Ça va être tout l'environnement dans lequel on vit. Là, ça va être aussi l'accès à, par exemple, une pratique d'activité physique. Ça, on sait que ça impacte en fait le comportement des gens. C'est plus facile de pratiquer une activité physique si on a des infrastructures autour de chez soi, si c'est facile de faire du vélo, si c'est facile de se déplacer à pied. Et ça, en fait, on appelle ça aussi facteurs environnementaux parce que ce sont des facteurs qui vont conditionner ensuite vraiment le comportement des gens et de façon indirecte leur santé. On s'intéresse aussi à l'accès à l'alimentation de qualité dans la même idée. C'est plus facile de bien s'alimenter si autour de chez soi on a plutôt des commerces de qualité sur l'alimentation que le contraire. Et d'un point de vue plus sanitaire, sur les côtés prise en charge, ça va être aussi l'offre de soins qui peuvent, au bout du compte, avoir un réel impact sur la santé et sur le global de l'état de la population. Donc en fait, les facteurs environnementaux au sens très large, ils sont vraiment à plusieurs échelles. Et c'est un petit peu l'effet cocktail aussi qui va avoir un impact. Le problème aujourd'hui, c'est ce qu'on se rend compte que tout est combiné. Généralement, les personnes plutôt défavorisées vont vivre dans des environnements où il y a plus de pollution de l'air. Il y a aussi une plus faible attractivité au niveau des infrastructures d'activité physique. L'offre alimentaire est aussi de moins bonne qualité. L'offre de soins n'est pas toujours bonne, etc. Et en fait, tout ça fait que ça va faire un effet cocktail très délétère et que ça mène à des inégalités de santé au niveau du territoire qu'on peut observer. Par exemple, sur la pollution de l'air, on constate aujourd'hui que quand on classe les communes, les quartiers par niveau de défavorisation, on se rend compte qu'avec aussi des données de pollution de l'air qui maintenant sont très, très riches et très précises, on voit très bien qu'en France aujourd'hui, plus on habite dans un lieu de vie qui est défavorisé, plus on est exposé à des niveaux de pollution de l'air qui sont forts. On regarde ça aussi dans l'évolution dans le temps, parce qu'effectivement le problème de la pollution atmosphérique est par contre un problème quand même bien... Dans les préoccupations de santé publique, la pollution de l'air, globalement, elle baisse partout en France. Mais c'est pareil, quand on regarde par niveau de défavorisation des quartiers, des communes, on voit que ça baisse plus lentement dans les zones les plus défavorisées. Donc ça veut dire que les inégalités qu'on observe aujourd'hui sont amenées à s'aggraver dans l'avenir.
Ces derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler de la très décriée loi du plomb. Alors qu'on estime que 55 à 60% des cancers prennent leur origine dans les facteurs environnementaux, cette loi, promulguée le 11 août 2025, prévoit la réintroduction sous condition d'un pesticide, le néonicotinoïde. L'Ordre des médecins a tenté d'alerter les pouvoirs publics sur la potentielle dangerosité de ces produits phytosanitaires. Fleur Breteau, du collectif Cancer Colère, n'a pas caché son indignation face à l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale. Quel lien fait-on entre les pesticides néonicotinoïdes et le cancer ?
La question des pesticides est très vaste parce que, à ce jour, la relation entre l'exposition aux pesticides et certains risques de cancer en fait, sont surtout établis en milieu professionnel. Donc au niveau de l'exposition directe que vont avoir les professionnels de l'agriculture, donc principalement les agriculteurs. Mais c'est vrai que les connaissances au niveau exposition environnementale aux pesticides et risques de cancer sont beaucoup plus inconnues, sont suspectées. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins aujourd'hui, en France et ailleurs, de certitudes, sur, en tout cas des connaissances précises sur l'exposition environnementale aux pesticides, notamment parce qu'on s'imagine bien que c'est compliqué à mesurer, de savoir réellement comment chaque individu, en fonction de son lieu de vie, est exposé aux pesticides. Donc évidemment, ce sont des pistes de recherche très fortes aujourd'hui, mais on n'est pas encore capable d'avoir des indicateurs précis de l'exposition aux pesticides de la population en fonction de son lieu de vie. Donc voilà, c'est sûr que ça suggère la peur d'avoir cette menace un petit peu de l'exposition aux pesticides par rapport à la population. Mais malheureusement, c'est pas encore possible en fait de mesurer les choses de façon précise et de pouvoir vraiment établir des relations de cause à effet qui sont vraiment probantes.
Peut-on dire que certaines normes de genre, cosmétiques, produits ménagers, métiers, augmentent cette exposition? L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, estime que, en moyenne, 20% des femmes consacrent 4 heures par jour aux tâches domestiques. Noémie Moutel.
En fait, c'est là où les luttes écoféministes prennent racine. C'est dans la proximité qu'il va y avoir entre eux sur des familles monoparentales où des femmes ont la charge d'un certain nombre d'enfants et vont être, parce qu'avec les enfants au quotidien, particulièrement conscientes des risques sur leur santé. Et on peut imaginer qu'il y a une vraie inquiétude de quelles vont être les conséquences de la pollution sur les générations suivantes, quelles vont être les conséquences de telle ou telle alimentation sur la santé des enfants. Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans les luttes écoféministes, c'était de voir que ce sont des personnes qui sont des parentes, qui s'occupent des générations futures, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir tenir un propos politique, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir organiser des manifestations, qui vont se mobiliser. Et donc, non seulement, je ne sais pas en fait à quel point on peut dire qu'elles sont les plus touchées, ce qui est certain, c'est qu'elles sont à des endroits d'exposition où elles sont particulièrement conscientes que les générations futures vont être affectées, que la pauvreté, la précarité, les conditions dans lesquelles on vit vont renforcer ces conditions-là, et qu'il y a donc des luttes à mener. Il y a des choses à empêcher d'advenir. Pour moi, c'est vraiment plus une question de avoir conscience des conséquences du fait, en effet, d'être donc dans une lecture féministe des choses. On a tendance à utiliser deux espaces. On parle de la sphère publique et on parle de la sphère privée. Les femmes, avant que les luttes féministes ne participent à leur émancipation, étaient principalement cantonnées à la sphère domestique. La sphère où on élève les enfants, la sphère où on va transformer ce qu'on a acheté dans les magasins, mais dans beaucoup, beaucoup de parties du globe, c'est aussi la sphère où on va tout simplement avoir des moyens de subsistance qu'on va donner à nos enfants. Si une rivière est polluée, si les terres sont polluées, la conscience d'être en train de transmettre à ses enfants des aliments qui sont pollués va être plus grande de la part des personnes qui vivent dans cette sphère qu'on appelle la sphère privée. Donc c'est à la fois une plus grande exposition, mais c'est aussi un endroit de plus grande conscience, d'être réellement témoin des conséquences potentielles et donc être affecté et avoir envie de pouvoir s'opposer sans en avoir les moyens. Là, je pense vraiment au travail de Fatima Wasak, qui est une militante qui vit en Seine-Saint-Denis, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une écologie populaire ». Et donc, elle s'attaque à ces questions à la fois de populations minorisées, précarisées, racisées, et au travail des mères, puisqu'elle a participé à créer un collectif qui s'appelle le Front des Mères, en se demandant, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir accès, par exemple, à une alimentation de qualité lorsqu'on vit en quartier populaire ? Il n'y a pas que la question économique, il y a aussi une question culturelle. C'est qu'on va se représenter d'avoir une cantine qui va servir du bio, peut-être plus en zone rurale, peut-être en zone urbaine de centre-ville. On va voir ça comme ayant un certain standing, en fait. Et comment est-ce qu'on amène les questions écologiques, les questions de santé et les questions d'alimentation dans les quartiers populaires, alors qu'on est aussi là face aux conséquences de politiques coloniales qui font que les personnes racisées sont particulièrement logées dans des quartiers où les logements vont avoir plus tendance à être insalubres. Donc est-ce que ces personnes, elles sont politisées avant ou politisées au fur et à mesure qu'elles peuvent se rencontrer les unes avec les autres ? C'est pour ça qu'elle a appelé, le collectif s'appelle le Front des Mères. C'est vraiment de pouvoir s'unir, réfléchir à quelles sont les conditions qui font que on n'a pas accès à des alimentations de qualité. Qu'est-ce qui fait que l'architecture de ce quartier en particulier cache le soleil en permanence ? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de la circulation routière dans nos quartiers ? Comment est-ce qu'on va avoir plus d'espaces verts ? En fait, se poser ces questions-là revient aux personnes minorisées de fait, mais c'est une question politique bien plus globale.
Et quid de la contraception ? Noémie Moutel revient sur le début de la commercialisation de la pilule contraceptive.
À partir des années 70, quand on a commencé à prescrire la pilule, quand la pilule contraceptive est devenue légale, les pilules qui ont été mises sur le marché, je pense à Steridryl notamment, étaient des pilules dont on va dire aujourd'hui qu'elles sont surdosées. C'est des pilules qui n'avaient pas fait l'objet de recherches très poussées sur leur potentiel cancérigène. Et encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, les recherches sur le potentiel cancérigène des pilules contraceptives ne sont pas très nombreuses et pas très fournies. Là, on peut y voir une inégalité de genre. Est-ce que si la pilule contraceptive avait été prescrite à des hommes, est-ce que les recherches auraient été plus loin ? Est-ce qu'on aurait investi plus d'argent pour savoir s'il y aurait des conséquences néfastes sur la santé des hommes ? C'est probable que oui. Donc, le fait est que ces pilules ont été commercialisées pendant plusieurs décennies, avec, là où ça peut être un peu polémique, avec aussi cependant qui fait qu'il y a une libération sexuelle, il y a une possibilité de choisir d'enfanter ou pas, au détriment, toutefois, de la santé féminine. Donc, on voit que là, une inégalité de genre qu'on peut être en train d'essayer de régler, de solutionner par le biais médical, va quand même cacher un risque sur la santé des femmes qu'on n'avait peut-être pas vu de prime abord et qui là, je crois, est en train de, de faire l'objet d'une plus grande attention du public, il me semble, progressivement.
Face à cette inégalité de genre, comment réagissent les pouvoirs publics ? Peut-on parler d'injustice environnementale, spécifiquement genrée ?
J'ai l'impression que les politiques publiques ne prennent même pas au sérieux la question de la pollution en général, et encore moins une lecture genrée et nuancée de la question. Quand on voit ce qui s'est passé autour du vote de la loi Duplomb très récemment, on voit qu'il y a une forme, donc là, on ne peut pas parler de climato-scepticisme. C'est pas vraiment ça qui a lieu, mais il faudrait peut-être inventer un terme sur la question d'être sceptique vis-à-vis des conséquences de la pollution sur la santé des personnes, parce qu'on voit que néolibéralisme, investissement, souci de retour sur investissement et de production sans limite, tout cela additionné fait qu'il y a une forme de déni qui aujourd'hui nous trouble, je crois, parce que les informations circulent. L'éducation à l'écologie a lieu dès le primaire, au collège, au lycée. On est face à des générations plutôt jeunes qui sont extrêmement alertes. Aujourd'hui, il y a des personnes d'une vingtaine d'années qui sont capables de se demander si la pilule contraceptive est vraiment nécessaire pour elles à ce moment-là de leur vie, parce qu'elles ont conscience que non seulement il y a des répercussions sur le corps humain, et je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre la pilule, c'est absolument pas mon propos, mais c'est de dire que les recherches étant ce qu'elles sont, il est important de se demander quelle pilule est-ce qu'on est en train de prendre, comment est-ce qu'elle est dosée, pourquoi est-ce qu'on la prend. Et deuxième aspect, c'est que par l'urine, les composants et ces molécules vont, ces hormones de synthèse vont passer dans les canalisations, vont arriver dans l'eau, vont passer par les stations d'assainissement, mais on manque énormément de recul pour avoir toutes les informations nécessaires. Ce qu'on sait, c'est que ça participe à la pollution des cours d'eau, que ces cours d'eau se jettent dans l'océan, et on sait qu'on participe aussi à une forme d'érosion de la biodiversité. Donc là, oui, on voit bien, en termes de rapport de genre et de dérèglement climatique, qu'il y a des liens qu'il nous reste encore à éclaircir et à regarder en face.
Mais alors, quels moyens d'action ? Peut-on encore agir ? Est-ce que les politiques publiques prennent suffisamment en compte cette dimension genrée de la santé environnementale ?
Eh bien, les moyens d'agir, eh bien, c'est bien sûr de la prévention, c'est aussi beaucoup, et là c'est le rôle de la recherche, de fournir de plus en plus vraiment de données et de chiffres sur ces aspects-là. C'est pas quelque chose qui est toujours facile. Ça nécessite vraiment des données de très bonne qualité sur l'incidence des cancers. Donc il y a les données de registre qui sont particulièrement, qui sont indispensables pour étudier ces variations d'incidence, donc de risque de cancer sur un territoire. Et puis, bien sûr, donc les données environnementales, puisque de la même manière, on ne peut pas mesurer les choses sans données de qualité. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue des données environnementales, on a quand même accès de plus en plus à des données de qualité. Mais voilà, ça va être évidemment le rôle de la recherche de fournir de plus en plus, d'utiliser ces moyens pour vraiment informer les politiques publiques. Et de toute façon, après, c'est aussi l'investissement qu'on met dans la prévention, dans la santé publique, pour agir. Si on identifie une cause de nature environnementale, et ben après, voilà, faut mettre les moyens aussi pour agir dessus. L'information, c'est la base de la prévention, et ça, c'est vrai que c'est fondamental. Mais voilà, même des facteurs de risque qui sont connus depuis très longtemps, aujourd'hui, on est encore obligé d'insister dessus pour informer les gens et espérer que ça change leur comportement. Mais bien sûr que c'est très important. Et pour la question du réchauffement climatique, eh bien, c'est aussi des sujets très qui commencent à beaucoup être étudiés, parce que, par exemple, le réchauffement climatique va être partout. Mais si, par exemple, des modifications en termes d'urbanisme, au niveau des espaces verts, etc., eh bien, l'investissement n'est pas le même partout, et eh bien l'impact, il ne va pas être le même partout non plus, parce qu'on sait que les espaces verts, ça atténue en tout cas les effets du réchauffement climatique. Donc c'est pareil, ce sont des éléments qui sont à suivre pour s'assurer que tous bénéficieront de la meilleure, en fait, protection face à ce changement climatique. Et il y a quand même des résultats qui commencent à sortir sur l'impact de ce changement climatique, notamment une étude assez récente à laquelle je pense, où il a été établi que le risque de complications de la grossesse était plus fort pour les femmes qui sont exposées à une vague de chaleur pendant leur grossesse. Donc évidemment que c'est un sujet qui commence à vraiment beaucoup préoccupé voilà, quand on analyse les choses, on se rend compte effectivement que ça a un impact et il est prévu pour s'aggraver dans les années à venir. Oui.
On l'a compris en écoutant Noémie Moutel et Joséphine Brière, la pollution impacte avant tout le corps des personnes les plus pauvres, notamment les femmes. Une conscientisation qui pèse de plus en plus sur celles pour qui la charge mentale ne cesse d'augmenter. Peut-on parler de charge mentale écologique ?
C'est ce que nous verrons plus en détail dans le troisième épisode de cette trilogie. C'était Génération Plus 3 degrés, une série audio proposée par Radio Campus Angers, Radio Phoenix et Radio Campus Orléans.